Alexis, à la guitare, Nouni Birando, à la conga, Nouni Edi, à la batterie, Nouni Camille, au saxophone, moi en séi promène, antinome qui nous.
Se raconte au féminin.
Vous écoutez RFI, il est 7h à Paris, 6h en temps universel.
Marion Cazanov.
Et Pierre Boudias pour le journal. Bonjour Pierre.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
8 jours de guerre et un Moyen-Orient toujours noyé sous les bombes.
Liban et Iran sont intensément frappés ces dernières heures. La République islamique poursuit elle ses ripostes sur les pays du Golfe. Nous retrouverons nos correspondants à Beyrouth et à Erbil dans ce journal. Nous serons également en Cisjordanie, le territoire occupé où la guerre n'empêche pas Israël de poursuivre sa colonisation. Attaques et agressions de colons s'y multiplient. Les États-Unis haussent une nouvelle fois le ton face au Rwanda. Washington va priver plusieurs hauts responsables de Kigali de visa, une réponse à des actions entravant la paix dans la région des Grands Lacs. Et puis Donald Trump qui réunit ses alliés sud-américains à Miami et les Chpétis berlinois en voie d'extinction, c'est à retrouver en fin d'édition.
Le Moyen-Orient entre ce matin dans sa deuxième semaine de guerre.
8 jours de frappes et de ripostes incessantes qui se poursuivaient ce matin. L'armée israélienne dit avoir lancé une opération de grande ampleur sur Téhéran et assure être en train de broyer le régime iranien. Israël toujours engagé sur 2 fronts. Le Liban est ainsi également largement pilonné depuis lundi et doit faire face à une incursion au sol de son voisin israélien. On va tout de suite prendre la direction de Beyrouth où on vous retrouve, Port Ralifé. Bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour tout le monde.
Paul, le fait le plus marquant de ces dernières heures, c'est une tentative de débarquement héliportée israélienne dans la Beka, confirmée par l'armée libanaise, le Hezbollah et les correspondants de presse locaux. Alors que s'est-il passé ?
Oui, c'est l'armée libanaise qui a repéré en premier les appareils israéliens au-dessus de la chaîne de l'anti-Liban, à la frontière syro-libanaise, au nord de la plaine de la Beka. Des correspondants locaux de la presse libanaise affirment que l'artillerie de l'armée a tiré des fusées éclairantes en direction de 4 hélicoptères qui sont entrés au Liban par l'espace aérien syrien. Dans un communiqué publié à l'aube, le Hezbollah indique que ses combattants ont affronté des unités d'infanterie israéliennes débarquées près du village de Nabi Shit, fief du clan chiite des Chokor, qui est proche du parti chiite. Le Hezbollah ajoute que les habitants des villages environnants ont participé aux combats, aux armes légères et moyennes. Prise sous des feux croisés, la force israélienne a dû se retirer. La tentative de débarquement pourrait expliquer l'acharnement de l'aviation israélienne sur la région concernée. Le seul village de Nabi Shit a été la cible vendredi de 12 raids, sans compter les frappes qui ont visé les localités voisines.
Paul, on l'entend, la guerre qui a éclaté lundi à l'aube est très vite montée en puissance avec une intensification rapide des opérations militaires. L'armée israélienne affirme avoir frappé 500 cibles du Hezbollah.
Les sources libanaises font état de 400 raids en 5 jours. Pour la seule journée de vendredi, l'aviation israélienne a mené 60 frappes sur 30 localités du sud Liban, faisant au moins 57 morts, ce qui porte le bilan global à 217 morts et 800 blessés au 5e jour du conflit, selon le ministère libanais de la Santé. La banlieue sud de Beyrouth, désertée par ses habitants, a été ciblée 12 fois hier. Fait marquant vendredi, les frappes effectuées pour la première fois sur le centre de la ville portuaire de Saïda, à 45 km au sud de Beyrouth.
Paul Ralifé, correspondant de RFI à Beyrouth. Merci à vous. Et le chef des opérations humanitaires de l'ONU a évoqué hier une situation extrêmement préoccupante dans le pays du Cèdre. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, met de son côté en garde contre une situation qui pourrait devenir incontrôlable. Des appels au calme qui restent lettre morte alors que l'Iran poursuit ses frappes de riposte. Une explosion a été entendue à Jérusalem ce matin après une alerte signalant l'arrivée d'un missile lancé par la République islamique. Téhéran, qui cible également les pays du Golfe abritant des intérêts américains. Opération d'interception il y a moins d'une heure au-dessus de l'aéroport de Dubaï. Et l'Irak n'est pas épargné par ces attaques tous azimuts. Marie-Charlotte Roupy, vous êtes notre correspondante à Erbil. Après un court répit jeudi, les attaques sur la capitale du Kurdistan irakien qui abrite des intérêts américains ont repris. Et hier soir, Marie-Charlotte, plusieurs salves de drones ont été tirées. Un hôtel a été touché.
Oui, hier soir, un peu avant 23 heures, une forte explosion a fait trembler plusieurs quartiers autour de la zone d'impact dans le nord de la ville d'Erbil. 4 drones ont été interceptés par les défenses antiaériennes américaines, selon les forces antiterroristes du Kurdistan. Mais un hôtel haut de gamme a été endommagé par les débris. On pouvait voir de loin un nuage de fumée s'élever au-dessus de cette tour visée. Cette attaque a été revendiquée par la résistance islamique en Irak, qui regroupe plusieurs factions armées irakiennes proches de l'Iran et qui revendiquent plus d'une vingtaine d'attaques hier en Irak et dans la région contre des intérêts américains. Et plus tôt dans la journée, l'ambassade des États-Unis à Bagdad avait alerté ses ressortissants, les invitant à évacuer justement les hôtels. Le reste de la nuit, d'autres drones ont été détectés et abattus par les défenses antiaériennes autour de la ville d'Erbil.
Marie-Charlotte Roupy, vous étiez à Erbil pour RFI. Merci à vous. Également visé par des frappes iraniennes, l'Arabie Saoudite met ce samedi son voisin en garde contre, je cite, « toute erreur d'appréciation ». Le président américain a de son côté fermé la porte hier à toute négociation. Donald Trump qui demande rien de moins qu'une capitulation totale de la République islamique.
Loin des caméras du monde entier, la Cisjordanie continue d'être grignotée.
Le territoire palestinien occupé, soumis à une recrudescence des attaques de colons, il tente de s'emparer du plus de terres possible, des agressions permanentes qui rendent impossible la vie des habitants sur place. C'est ce qu'a pu constater Alice Froussard à Sinjil.
Le village palestinien de Sinjil, à 15 km de Ramallah, est verdoyant. Partout, il y a des petites fleurs synonymes du printemps, mais plus personne, ici, ne profite de la nature comme avant. Ziad, un Palestinien du village, nous montre les oliveraies en contrebas, de l'autre côté de la route 60. C'était ces arbres, mais depuis, ils ont été confisqués par les colons.
Avant, j'emmenais mes enfants, ma femme, et on venait ici pour travailler. Pourquoi les colons ont pris mes oliviers ? N'est-ce pas indécent ? C'est ma terre, c'était la prunelle de mes yeux.
Comme lui, tout le village a eu affaire aux colons israéliens. Certains ont vu leurs troupeaux voler, d'autres se sont fait attaquer. L'attaque américano-israélienne sur l'Iran n'a d'ailleurs rien changé. Parfois, on entend des sirènes retentir, celles des coloniels autour. Il y a ensuite des détonations dans le ciel, celles des interceptions par la défense antiaérienne israélienne. Mais dès que le calme revient, il n'est que relatif pour les habitants. Car les colons ne s'arrêtent pas à ça, ils en profitent pour attaquer, nous explique le maire du village.
C'est systématique et surtout ça vise à rendre la vie impossible aux Palestiniens dans toute cette zone. C'est une manière de leur faire comprendre qu'il leur sera toujours difficile d'y vivre, peu importe les circonstances. Mais notre réponse est la même à chaque fois qu'il y a des affrontements. Nous resterons ici, nous reconstruirons tout ce qui a été détruit, nous poursuivrons notre combat malgré les colons et l'occupation.
Ici, c'est une guerre comme les autres, mais elle n'intéresse personne, soupire-t-il. Cette semaine, 2 Palestiniens ont été tués dans le village de Karyout, au nord de la Cisjordanie occupée. Alice Froussard, de retour de Sinjil, RFI.
Et dans ce contexte, l'Indonésie prévient ce matin qu'elle quittera le Conseil de la paix mis en place par Donald Trump si ce dernier ne profite pas aux Palestiniens. Jakarta s'est engagé à envoyer 1 millier de soldats de maintien de la paix dans la bande de Gaza pour assurer le cessez-le-feu avec Israël.
RFI, 8h08 à Kigali. La patience de Washington vis-à-vis du Rwanda semble s'étioler.
Déterminé à assurer la stabilité de la région des Grands Lacs d'où sont issus de nombreux minerais rares, les États-Unis accentuent leur pression sur les dirigeants rwandais après avoir annoncé il y a quelques jours des sanctions économiques d'ampleur contre l'armée rwandaise et plusieurs officiers supérieurs. Ce sont cette fois de hauts responsables qui se retrouvent dans le viseur de la Maison-Blanche. Des personnalités accusées de soutenir la rébellion du M23 dans l'est de la RDC et de contribuer à l'instabilité dans la région. Les détails avec Florence Maurice.
La mesure a été annoncée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Elle vise, selon Washington, des personnalités impliquées, directement ou indirectement, dans des actions qui compromettent les efforts visant à ramener la paix dans l'est de la RDC. Le département d'État n'a pas donné plus de détails sur l'identité des personnes touchées, les dossiers de visa étant confidentiels selon la loi américaine. Ces restrictions devraient donc concerner les responsables déjà visés lundi par des sanctions du Trésor américain, à savoir l'armée rwandaise et quatre de ses officiers supérieurs, mais d'autres personnalités ou des membres de leur famille pourraient également être touchés. Les États-Unis accusent notamment Kigali de violer les accords de Washington signés en décembre. Ces accords prévoyaient, entre autres, le retrait des troupes rwandaises de l'est de la RDC et la neutralisation par Kinshasa des rebelles Hutus des FDLR. Quelques jours seulement après leur signature, des combattants du M23, soutenus de sources concordantes par le Rwanda, avaient relancé une offensive et pris le contrôle de la ville d'Ouvira.
Florence Maurice et le président rwandais Paul Kagame a réagi hier devant le corps diplomatique réuni à Kigali. Il a dénoncé ce qu'il qualifie de pression sélective sur son pays et critiqué à demi-mot les États-Unis. Les États-Unis qui entendent bien réaffirmer leur influence sur l'Amérique du Sud. C'est en tout cas le sens d'un sommet qui se tient en Floride. 12 chefs d'État et de gouvernement latino-américains réunis autour de Donald Trump. Argentine, Bolivie, Chili, Salvador, Honduras seront notamment représentés à cette réunion intitulée « Bouclier des Amériques » et le timing n'a pas été choisi au hasard. Ce rassemblement intervient juste avant le déplacement du président américain à Pékin. Explication, Vincent Souriau.
Il faut regarder la liste des absents pour comprendre l'ambition de ce sommet. La plupart des dirigeants progressistes ou classés à gauche ne sont pas là. Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique, Lula, le Brésilien, ou Gustavo Petro, le chef d'État colombien, ne se sont pas déplacés. En majorité, les invités de Donald Trump sont des partisans de la fermeté en matière régalienne, migratoire ou de lutte contre le narcotrafic. Et si le président américain les réunit, c'est pour leur faire signer une déclaration. La charte de Doral, du nom de la ville de Floride où se tient cet événement. Charte censée plaider pour le droit des peuples latino-américains à prendre leur destin en main sans interférence extérieure. Autrement dit, il s'agit de faire cause commune contre la Chine que l'administration Trump accuse d'ingérence économique sur le continent américain par le biais de ses routes de la soie. Le timing est d'ailleurs loin d'être anodin. Ce sommet a lieu 3 semaines avant que Donald Trump ne parte en visite officielle à Pékin. Ce sera le premier déplacement en Chine de son second mandat. Vincent Souriau, Washington RFI.
Et puis, c'est un peu l'Eldorado pour les noctambules berlinois.
Les Spétis, ces supérettes où on trouve cigarettes, alcool, chips ou surgelés à quasiment toute heure du jour, mais surtout de la nuit, généralement gérées par la communauté turque. Ils ont vu le jour il y a 50 ans et se sont fait une véritable place au cœur de la vie de quartier de la capitale allemande. Ils sont pourtant en voie de disparition à Berlin. Le reportage de Nathalie Vériseux.
15h30, devant l'entrée du métro aérien de Bundesplatz à Berlin, sous les arcades, une petite enseigne verte de supérettes. Devant les shops, quelques tables, des chaises et des bancs, Johan et Jan, deux lycéens, sont des habitués.
Je viens d'aller chercher un paquet au Bundesmarkt, c'est un super spéti.
L'été surtout, c'est très bien, surtout quand il y a du foot.
Ce qui me plaît, c'est l'ambiance. À Berlin, il y a vraiment une culture du spéti.
Mais les cafés sont plus chers.
Au cœur de la vie de quartier, les Spétis sont aussi une importante source de revenus pour la communauté turque. Alper Baba, gérant de 4 magasins.
Nous sommes une famille très nombreuse ici à Berlin et nos parents qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'études, qui n'ont pas de travail, nous leur permettons ainsi d'avoir un travail. Ce sont plus de 10 personnes de la famille qui travaillent chez nous.
En conflit avec la ville sur l'ouverture du dimanche, menacés par l'inflation, près de la moitié des Spétis ont fermé depuis la crise sanitaire, malgré les nombreuses protestations de riverains. Nathalie Vercieux, Berlin, RFI.
À Berlin, où il est 7h12, la suite d'RFI Matin avec vous, Marion Cazeneuve.
Et c'était le journal de Pierre Boudias. Vous revenez pour le journal de 9h, heure de Paris. On passe au sport. avec vous, Saliou Diouf. On commence avec du football. Le Paris Saint-Germain enregistre sa première défaite de la saison à domicile en Ligue 1.
L'AS Monaco s'est imposé à l'aller comme au retour face au club de la capitale. Hier soir au Parc des Princes, le club du Rocher s'est imposé 3-1 en ouverture de la 25e journée. Toujours leader du championnat, le PSG pourrait voir Lens, son dauphin, revenir à un point en cas de succès dimanche après-midi face au FC Metz. Pour Monaco, cette victoire permet de se venger de l'élimination en barrage de Ligue des Champions, à la plus grande satisfaction de l'ancien défenseur parisien, l'allemand Thilo Kehrer.
C'est très difficile ici, on le sait, mais on est venu avec toute notre confiance. On a dit on va tout laisser sur le terrain. Je pense qu'on a vu qu'on était très unis, on s'est battu jusqu'à la fin et devant on avait un petit peu de chance, réussite. C'est ce qu'il nous fallait aujourd'hui et pour ça on est très contents. Dans tous les matchs contre le PSG, on a montré des bonnes choses. C'est sûr que aussi contre cette équipe, il va avoir des occasions et avec leur qualité, ils vont se créer quelque chose. Dans tous les matchs, c'est comme ça. La clé, c'est de défendre ensemble, de croire en nous, et c'est ce qu'on a fait.
Monaco revient à 3 points de la 4e place occupée par l'OM, qui se déplace ce soir à Toulouse.
Toujours du football. Hier soir, le Real Madrid s'est imposé dans la douleur.
Dans le cadre de la 27e journée de Liga, les Merengues se déplaçaient sur la pelouse du Celta Vigo. Les coéquipiers de Vinicius se sont imposé 2-1 sans Kylian Mbappé blessé au genou. Le Real revient à 1 point du Barça qui joue ce soir face à l'Athletic Bilbao.
Et parlons rugby. À présent, Saliou, le 15 de France dispute son 4e match dans le tournoi des 6 nations.
Et les Bleus vont jouer en Écosse aujourd'hui avec leurs 3 victoires consécutives. Un match charnière sur la pelouse de Murrayfield qui pourrait leur permettre de s'ouvrir définitivement la route vers la victoire dans la compétition. Une ambiance toujours particulière dans un stade qui n'a toujours pas réussi au 15 de France. Antoine Dupont, le capitaine, se met méfie donc de ce rendez-vous face à une équipe spectaculaire.
J'ai envie de dire comme tous les stades dans ce tournoi, on a la chance de jouer dans des enceintes magnifiques mais qui peuvent s'avérer être hostiles quand on n'est pas chez nous. C'est ce qui fait la magie de ce tournoi, mais ici comme ailleurs, c'est sûr que quand on sent le public qui pousse derrière l'équipe d'Écosse, c'est toujours particulier pour nous, mais je pense qu'on est aussi préparé à ça. Cette équipe d'Écosse, elle est plus que dangereuse, c'est sûrement l'attaque la plus dangereuse dans ce tournoi. Ils l'ont montré lors des derniers matchs. Donc on est préparé à ça. On a les clés pour rivaliser avec eux, mais il faudra qu'on soit au maximum de notre concentration et de notre intensité pour rivaliser.
Écosse-France, coup d'envoi du match, 14h10, temps universel.
Et puis les Jeux Paralympiques d'hiver 2026 de Milan Cortina, c'est parti.
Au lendemain de la cérémonie d'ouverture à Vérone, 2 disciplines vont donner leur premier titre, le paraski alpin à Cortina et le parabiathlon à Tessero, où pas moins de 6 épreuves vont s'enchaîner dans les catégories officielles masculines et féminines. La France a un représentant dans les 3 catégories masculines. En parabiathlon debout, il s'appelle Benjamin Davier, 36 ans, handicapé au genou gauche à la suite d'un accident de moto. Quintuple champion paralympique, il va s'élancer pour le sprint 7,5 km qu'il avait remporté en 2018 et il explique comment il aborde ses 4e Jeux d'hiver.
J'aborde ces Jeux avec plein d'envie, moins de stress aussi que par rapport aux Jeux précédents. Avant tout, c'est d'être à 200% sur les skis et au tir. Physiquement, je me sens très bien. Je pense qu'on a fait du très bon travail sur les stages et les compétitions et je pense qu'on a su viser le pic de forme au bon moment. La piste, elle est loin d'être facile. C'est une piste qu'il va falloir vraiment bien gérer, d'autant plus qu'il fait chaud. Et je pense que celui qui arrivera vraiment à faire la différence, c'est celui qui saura correctement gérer la piste.
Benjamin Davier interrogé par Christophe Diremsian.
Et c'était le Journal des Sports, signé Saliou Diouf. Sur l'information, notre chronique sur les défis auxquels sont confrontés les journalistes au Mozambique. Ils sont rares à couvrir les questions environnementales. Et parmi eux, Carlitos Kadangé, journaliste pour la chaîne privée STV. Il enquête sur les liens entre hauts dirigeants et entreprises impliquées dans des activités minières illégales et des violations de normes environnementales. Il dit avoir été victime, suite à son travail, d'une tentative d'assassinat en février. Les explications d'Eva Massy.
Carlitos Kadangé enquête sur les crimes environnementaux depuis 3 3 ans. Tout commence lors d'un séjour chez sa mère à Gondola, dans le centre-est du Mozambique, lorsqu'il voit la couleur marron et opaque de l'eau du robinet que sa mère boit et décide d'enquêter sur son origine.
Toute l'eau de la région vient de la lagune de Chikamba. Quand j'ai enquêté, j'ai découvert que tous les orpailleurs, artisanaux comme industriels, lavent l'or dans ces fleuves. Or, cette eau alimente les villes de Gondola, de Chimoyo, Messika, Wandouzi, Manika. Les habitants boivent de l'eau sale et impropre. C'est un attentat à la santé publique.
Carlitos poursuit les enquêtes et montre les effets dévastateurs de l'extraction minière illégale. Pollution des sols et des cours d'eau, récoltes perdues, risques pour la santé. La liste est longue. Ces enquêtes font du bruit et les autorités réagissent. Le 30 septembre, Maputo suspend l'activité minière dans la province.
À partir du 30 septembre, les choses sont devenues étranges. Certaines entreprises m'appelaient pour me dire sur un ton menaçant que, à cause de mes reportages, elles avaient dû arrêter leurs activités. Là, j'ai commencé à avoir peur.
Le journaliste découvre alors que certaines entreprises, et pas n'importe lesquelles, continuent malgré tout de fonctionner, enfreignant l'ordre de suspension.
Par exemple, l'entreprise Dima Mining appartient à l'un des fils de l'ancien président Philippe Nyusi. Non seulement elle traite l'or dans la rivière, mais elle a même détourné le cours d'eau vers son usine de traitement. Des amis m'appelaient pour me dire « Fais attention, ton eau circule. Les sociétés minières ne sont pas contentes. » Puis un jour, la gouverneure de la province, Florentina Gomez, m'a appelé. Ses fils possèdent l'entreprise Nyamaombo qui exploite une mine. J'avais couvert la mort de 13 personnes sur ce site malgré l'arrêt des activités décidées par le gouvernement. Au téléphone, elle m'a accusé de salir l'image de la région et m'a demandé pourquoi je ne partais pas vivre ailleurs. Elle m'a clairement menacé.
Quelques mois plus tard, le 4 février, Carlitos Kadangé est en voiture avec son fils lorsqu'un autre véhicule se met en travers de la route. Trois hommes armés en sortent et tirent à plusieurs reprises.
Ces hommes-là venaient vraiment pour me tuer. Ils portaient des uniformes de police et des cagoules. Ils ont arrêté de tirer seulement lorsqu'une balle a traversé le pare-brise parce qu'ils ont dû penser que j'étais mort. Pour moi, il ne fait aucun doute, c'était lié à mes reportages.
Depuis l'attaque pour laquelle il a porté plainte, Carlitos Kadangé n'a pas repris le travail et sort peu de chez lui. Les médias mozambicains ont largement relayé l'attaque et diffusé le témoignage du journaliste. Les réactions sont aussi politiques. L'actuel président Daniel Chapo a exigé des éclaircissements sur l'affaire et a déclaré solennellement que la peur et l'insécurité sont des ennemis de la liberté.
Eva Massi pour la chronique Menace sur l'information RFI 7h20 à Paris. Depuis le début de l'année, plus de 600 personnes ont perdu la vie en essayant de traverser la Méditerranée. Un bilan donné il y a quelques jours par l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. C'est le pire début d'année, le plus meurtrier depuis 2014, selon cette agence de l'ONU. Si les chiffres varient selon les sources, cette route migratoire reste la plus dangereuse au monde. C'est sur cette route. Et pour éviter que ces tragédies ne se multiplient, que travaille SOS Méditerranée depuis 10 ans. Bonjour Fabienne Lassalle.
Bonjour.
Et directrice générale adjointe de l'ONG SOS Méditerranée. Cela fait 10 ans donc que l'ONG sillonne la mer pour aider ces migrants qui risquent leur vie. 10 ans depuis le premier sauvetage. J'ai donné ces chiffres, c'est plus de 600 morts depuis le début de l'année, des dizaines de milliers depuis 2014. On va y revenir, mais il y a aussi de très nombreuses vies sauvées depuis le début de vos opérations.
Oui, heureusement. Effectivement, il y a 10 ans, jour pour jour, l'Aquarius, notre premier navire, effectuait son premier sauvetage. Il courait 74 personnes et 10 ans plus tard, ce sont plus de 43 000 personnes qui ont été secourues par l'ONG grâce à 459 opérations.
Et alors comment expliquer, donc j'ai donné ces chiffres, ces 600 morts depuis le début de l'année, 10 ans plus tard, cette mortalité record, pourquoi une aggravation donc de la situation aujourd'hui ?
C'est une aggravation et en fait ça démontre que la tragédie continue, elle n'a jamais cessé et ce qui est pire je dirais, c'est que ce n'est pas une tragédie accidentelle. C'est une tragédie qui aurait été évitable et qui en fait n'est que l'aboutissement de choix politiques et de volonté politique et de laisser faire que des morts en Méditerranée soient un outil, le moyen d'un contrôle de la migration. C'est ça le véritable drame.
Alors
parce que les capacités, il y a les moyens d'aller secourir.
Alors de choix politiques, vous parlez de choix des États, pardon, de l'Union européenne. Vous avez peu de soutien des États européens.
Exactement, exactement. Ça a commencé par le fait que, il faut rappeler quand même que c'est aux États hein, de mettre en place les moyens pour aller secourir des personnes en détresse, et que depuis 10 ans, on a vu les États se retirer de la Méditerranée, retirer leurs moyens et leurs capacités de sauvetage en Méditerranée. On a vu ensuite les mêmes États européens confier à un État qui est la Libye la coordination de la recherche et du sauvetage. Donc un État, que je rappelle, est un État failli, un État où on sait qu'il y a des preuves accablantes de détention arbitraire, de violence généralisée. Et c'est à cet État qu'on a confié le fait d'intercepter des embarcations en détresse et des personnes qui ont besoin d'être secourues, et que cet État va ramener ces personnes en Libye, c'est-à-dire les remettre en danger, et ça, sous l'œil et l'assentiment des États européens qui financent la Libye et qui la soutiennent. Et troisième élément, alors que des États se sont retirés, ce sont les organisations humanitaires qui ont cherché à prendre le relais en Méditerranée centrale, comme SOS Méditerranée, et malheureusement, ces organisations sont empêchées par les États de mener à bien leur mission, et elles rencontrent d'énormes obstacles. Nos bateaux subissent des détentions administratives, on nous refuse de débarquer, des rescapés, on nous attribue sans cesse des ports extrêmement éloignés, et tout cela en dépit de la sauvegarde de la vie humaine, parce que ça veut dire qu'on est forcément moins actif et moins en capacité de secourir.
Alors ça veut dire
un dernier chiffre,
allez-y,
peut-être
allez-y.
591 jours ont été perdus à cause de ces obstacles pour les navires de SOS Méditerranée. C'est-à-dire près d'un an et demi où on n'a pas pu aller secourir. C'est combien de milliers de vies qui ont été perdues à cause de ça ?
Alors ça veut dire que d'un côté, les États européens vous délèguent un petit peu ce qu'ils faisaient auparavant, ces sauvetages en mer, et vous déplorez aussi cette absence de soutien, mais ils vous apportent aussi des financements. On ne peut pas dire qu'il y a un total désengagement
des États.
Ce n'est pas paradoxal.
Nous ne recevons aucun soutien financier des États. Les États refusent de financer les opérations de recherche et de sauvetage menées par les organisations humanitaires. Ceux qui nous soutiennent, ce sont les citoyens. Et depuis la création de SOS Méditerranée, nos capacités pour mener à bien notre mission, on la doit à la mobilisation des citoyens. Les États ne financent aucunement nos opérations.
Et alors aujourd'hui, donc pour avoir une idée, un jour de recherche et de sauvetage en mer à bord de l'Ocean Viking, par exemple, c'est 24 000 euros. Et une fois donc que vous sauvez en mer des migrants et que vous les prenez en charge, ce que vous nous expliquez, Fabienne Lassalle, c'est que c'est à ce moment-là en fait que c'est le plus dur qui commence, leur trouver un refuge. Comment vous vous organisez dans ces cas-là ?
Alors, on suit le droit maritime, hein, donc ce sont les autorités de coordination, donc les États qui doivent nous désigner le port où on va pouvoir débarquer les rescapés, puisque notre mission, elle va évidemment jusqu'à les débarquer dans un lieu sûr, un lieu où leurs droits fondamentaux seront respectés, où ils seront en sécurité. Et c'est bien pour ça que jamais nous n'irions débarquer des personnes en Tunisie ou en Libye, où on sait que ces personnes vont être maltraitées, voire tuées. Donc, nous cherchons à débarquer en Europe. Et là, c'est là où on rencontre de très grandes difficultés pour trouver et qu'on nous attribue des ports pour pouvoir débarquer les personnes. Et une fois qu'elles sont débarquées, eh bien ça, c'est là que se termine notre mission.
Alors, 10 ans après votre premier sauvetage en mer, est-ce que vous voyez des évolutions sur ces traversées, dans le sens où est-ce que ce sont exactement les mêmes routes migratoires, les mêmes points de départ et les mêmes points d'arrivée ?
Alors, les routes migratoires, elles évoluent en fonction en fait des difficultés que les personnes vont rencontrer pour s'engager en mer. Mais ce que l'on voit, et c'est la constante, c'est que les départs ont toujours lieu principalement de la Libye, parce qu'elles se retrouvent à un moment, ces personnes, dans leur parcours migratoire coincées en Libye. Et donc, et la vie y est tellement insupportable là-bas qu'elles n'ont d'autre choix que de prendre la mer pour échapper aux sévices qu'elles subissent en Libye. Et après, elles partent à la dérive Et donc, c'est toujours sur cette zone de la Méditerranée centrale qu'ont lieu l'essentiel des naufrages et des morts, et où on arrive encore à secourir des embarcations. Donc, et si elles ne peuvent plus aller sur la Méditerranée centrale, on a vu se déporter aussi vers les routes atlantiques, la route atlantique qui, elle, est encore plus dangereuse. Mais la Méditerranée centrale reste l'essentiel des lieux de traversée aujourd'hui.
Il nous reste un tout petit peu de temps, Fabienne Lassalle, pour terminer. Au vu de l'instabilité du contexte mondial actuel, est-ce que vous redoutez que les tentatives de traversée soient encore plus nombreuses dans les mois à venir ?
C'est tout à fait possible. On le voit depuis 10 ans. En fait, nous, on n'est que les témoins de ce qui se passe dans le monde, des conflits. Et chaque fois qu'il y a conflit, qu'il y a des horreurs qui se passent dans des pays, eh bien, de ces pays vont arriver des personnes qui vont fuir et donc qui vont chercher à traverser la Méditerranée. Donc oui, on peut redouter que l'augmentation de